foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019. Alors bienvenue à cette table ronde, la troisième déjà de la saison, et qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices, des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui nous submergent parfois. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi vous les présenter. D'abord, il y a Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences et religions de l'UQAM. Bonjour, Louis.
Bonjour, François.
Participe aussi à cette table ronde Suzanne Loisel, une militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour Suzanne.
Bonjour François.
Et enfin, Foi et Turbulence accueille aussi cette semaine Simon Maltais, l'éditeur adjoint Livres religieux aux éditions Novalis, Bayard Canada. Bonjour Simon.
Bonjour François.
Alors cette semaine, il sera question, bien évidemment, vous vous en doutez, des élections du 21 octobre prochain, des manifestations anti-gouvernementales en Haïti, de vives tensions entre Hong Kong et la Chine. Mais tout d'abord, discussion du rapport Vient sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Alors, c'est le 30 septembre 2019 que, de son vrai nom, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec, la Commission Vient, qui est présidée par l'honorable Jacques Vient, rendait public son rapport. Cette commission a tenu pas moins de 38 semaines d'audience qui se sont échelonnées du 5 juin 2017 jusqu'au 14 décembre 2018. En cours d'enquête, un peu plus de 1000 témoignages de gens issus de toutes les nations ont été recueillis. L'intérêt du président Vient, c'était celui-ci. On veut savoir quel est l'état des relations entre les communautés autochtones et les différents responsables des services publics au Québec. Une certitude se dégage des travaux de la Commission, si vous avez pu voir le rapport. Les structures et les processus mis en place par l'État québécois font montre d'une absence totale de sensibilité aux réalités sociales, géographiques, culturelles des peuples autochtones. C'est une constatation assez sévère. De nombreuses lois, politiques, normes ou pratiques institutionnelles en place sont source de discrimination et d'iniquité au point d'entacher sérieusement la qualité des services offerts aux Premières Nations et aux Inuits, dit le commissaire Vient. Dans certains cas, ce manque de sensibilité se solde même par l'absence pure et simple de services, laissant des populations entières face à elles-mêmes et sans possibilité d'agir pour remédier à la situation. Et le commissaire Vient va jusqu'à dire ceci, « Plus encore que leurs droits, c'est la dignité de milliers de gens qui est ainsi spoliée parce qu'ils sont maintenus dans des conditions de vie déplorables en marge de leur propre référent culturel. Dans une société développée comme la nôtre, ce constat est tout simplement inacceptable. » Est-ce que c'est ce qui vous est apparu, vous aussi, Louis Rousseau, lorsque vous avez pris connaissance des conclusions du rapport Vient?
Oui, je dirais tout de suite que je trouve que c'est un excellent rapport. On peut, bien sûr, une fois ceci dit, comme appréciation générale, on peut critiquer tel ou tel aspect, et j'en suis aussi, mais je préfère le recevoir comme tout, on devrait tous le recevoir au Québec, comme une analyse sur la situation contemporaine, mais qui a beaucoup de profondeur. C'est-à-dire que finalement, quand dans ces constats généraux, le commissaire nous dit il s'agit d'un héritage de longue durée. Et à mon avis, il faut remonter pratiquement au niveau de la Nouvelle-France pour évoquer l'espèce de dualité de fond inconsciente chez tout le monde avec lequel nous fonctionnons dans nos rapports avec les Autochtones depuis lors. Donc, il a l'intelligence et je crois la perspicacité C'est pas juste une question, là. Il y a eu quelques polices à Val-d'Or qui étaient vraiment des pommes pourries. Et on les trouve, on les accuse, et puis on règle le problème.
Ça
pas
a
du
été
tout.
Le déclencheur de cette...
C'était le déclencheur, mais on aurait pu en rester en quelque sorte au niveau d'une espèce de procès. C'est pas le mandat qu'il a reçu, il y a eu le mandat d'examiner à fond cette situation-là et de nous renvoyer une image où il touche à des questions essentielles. Alors, je voulais... C'est le premier élément que je veux souligner. Je vais juste donner un exemple. Nos Autochtones ici sont en majorité au moment où le premier contact se fait, au 16e et surtout au 17e. Ils sont des chasseurs. Il y a un petit groupe, mais qui n'est pas tellement au Québec à cette époque-là, qui pratique l'agriculture. C'est les Hurons qui sont quelque part près du lac Huron d'aujourd'hui, dans ce qui est maintenant l'Ontario. Et les Iroquois, ils sont déjà dans ce qu'on appelle l'État de New York à l'époque, donc c'est et ils vont avoir tout le monde avoir des rôles particuliers dans l'histoire. La chose, c'est que nous de culture européenne, je dis nous parce que j'en suis, nous avons quitté une vision du monde où la chasse et les rapports aux animaux et à la nature c'est capital, et on arrive ici avec des gens pour lesquels c'est l'essentiel au fond du rapport à la vie. Mmh. Ça passe à travers ça. Donc toutes les notions de qu'est-ce qu'un être humain, l'occupation, la division de l'espace, etc., tout ça, on n'est pas capable de les comprendre, et eux n'ont pas trop non plus la facilité de nous comprendre. Donc, il y a une espèce d'ambivalence. Pendant des siècles, ça va jouer, on va avoir tendance, nous, à s'ensauvager, comme ils disaient. Et avec des gens qui disaient, hélas, nos jeunes s'ensauvagent plus vite que nous réussissons à convertir les ça. Jean-Paul Sauvage, là, dans le vocabulaire de l'époque. Mmh. Mais avec la conquête et surtout avec le 19e siècle, les Indiens ne servent de moins en moins à l'économie, et on va se mettre à avoir une économie liée au bois, à la forêt. Donc, on va s'attaquer à l'espace de vie, on va pénétrer plus avant. Et nous sommes les héritiers de ça. Et on est dans une espèce d'impossibilité de comprendre l'héritage que eux ont, de même que notre propre héritage. Donc, le problème, c'est lié finalement à, on peut dire, nous avons toujours eu une approche colonialiste. On a décidé qu'il n'y avait rien ici. On a bâti une société qui allait essayer de nous ressembler, mais on l'a bâti dans un espace et des institutions qui ne conviennent pas du tout. Et un jour, quand ils n'ont plus eu la possibilité de peser dans nos décisions, les Autochtones, eh bien, ils étaient marginalisés, et avec toutes les conséquences, on a essayé de les convertir, de les rendre comme nous. Et c'est ce que dit le commissaire. On a méprisé entièrement leurs héritages. On ne comprend pas leur code. Et eux-mêmes, on leur a donné une image qu'ils étaient... Et là, je le mets entre guillemets, des espèces de sauvages, et avec, comme le dit le commissaire, une atteinte à la dignité de milliers de gens qui, et si vous n'avez pas le sens de votre dignité, ben vous dérivez facilement. Et c'est la situation.
Mais ça a été peut-être une surprise, en tout cas pour bien des gens, de se rendre compte que même si on s'en doutait un peu qu'il y avait de la discrimination par rapport aux nations autochtones, au Québec particulièrement, c'est de se rendre compte que dans bien des communautés, bon nombre de services qui sont offerts à l'ensemble des Québécois ne se rendent même pas du côté des nations autochtones. Oui. Ça vous a frappé aussi, vous, Suzanne Loisel?
Ben, moi, d'abord, je voudrais saluer effectivement la publication de ce rapport qui nous relance la problématique des Autochtones, nos relations de domination, de colonisation avec eux. Oui, vous soulevez la question des services. D'ailleurs, c'est un des objectifs de ce rapport, de bien décrire comment les Autochtones ont un accès tellement difficile aux services publics, étant des citoyens comme nous au pays.
On parle là des services policiers, on parle des services sociaux.
La santé, la protection de la jeunesse, ouais. Les services correctionnels. Par exemple, les services correctionnels, quand on sait par rapport à la proportion de la population autochtone au Canada, 5 % de la population et qu'il y a presque 25 % des gens incarcérés qui sont autochtones, ça soulève beaucoup de questions dans notre rapport d'abord avec eux. Mm-hmm. Moi, j'ai été très frappée d'abord par plusieurs choses. La première, je me dis, on aura besoin de combien de rapports? sur la situation des Autochtones au Québec, au Canada.
Là, il faut que ça change.
Là, je pense que c'est Ghislain Picard qui disait « Nous, des rapports et des excuses, c'est assez. On est rendu à l'étape de l'action. » Et moi, je pense qu'on a un rôle de vigilance extrêmement important pour dire quelle poignée de porte on va se donner pour faire en sorte que les 142 recommandations aient des suites. Mais on a déjà eu d'autres rapports où il y a eu beaucoup de recommandations. Moi, je pense par exemple à la commission Vérité-Réconciliation avec ses 94 recommandations. Il faudrait être assez lucide pour savoir que les suites qui ont été données à ces recommandations sont très minces. Mais je voudrais m'attarder quand même à deux aspects. Un premier aspect, la situation des femmes autochtones en Abitibi, particulièrement à Val-d'Or, ont été l'élément déclencheur, la répression policière par rapport à ces femmes. Et on constate à la lecture, et c'est très étonnant, qu'il y a très peu de lignes consacrées à la situation des femmes autochtones et de recommandations liées aux femmes autochtones.
En fait, on n'a pas de blâme concernant ce service de police-là local.
Pas du tout. Et Mme Michelle Viviane, qui est la présidente de la Fédération des femmes autochtones du Québec, avait bien raison de dire les grandes oubliées de ce rapport, si bon soit-il, ce sont les femmes autochtones. Par rapport aux recommandations, on ne peut pas passer au travers des 142 recommandations. La première, c'était des excuses du gouvernement québécois. Dès le lendemain, il y a eu ces excuses, mais moi, je partage l'opinion des Autochtones de dire on en a marre des excuses. On n'est plus rendu là quatre ou cinq siècles plus tard. On est rendu à mettre en place des mécanismes qui font qu'on est capable de vivre ensemble et que les Autochtones aient droit à des services de qualité comme les Blancs. Il y a la recommandation, je pense, du rôle de la protection du citoyen pour le suivi des recommandations.
Ça, c'est important.
Ça, je pense que c'est, à mon avis, un des nœuds de ce rapport et des recommandations. Est-ce qu'il y aura des suites? Quel mécanisme on va se donner pour que le service de la protection du citoyen soit vraiment le chien de garde pour le suivi des recommandations et l'application? Il y a aussi, et je termine avec ça, parce que 142 recommandations, on ne peut pas passer au travers, mais c'est la question de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. L'Assemblée nationale a une responsabilité face à cette déclaration, et moi j'ai été ravie de voir que dans les recommandations, on demande que l'Assemblée nationale adopte ce traité. Mais ce n'est pas juste le fait de l'adopter. Il y a une visée politique là-dedans et ça devrait marquer le suivi des recommandations.
Alors, c'est certainement en tout cas un traité qui pose question, en tout cas pour le Québec, qui dit que son territoire est indivisible et que ça soulève toute la question
tout
du processus d'autodétermination des différentes nations là, qui sont présentes ici sur le territoire du Québec. On va y revenir à ce sujet-là. Mais j'aimerais vous entendre, Simon, sur la question des excuses. C'était été la première recommandation de ce rapport-là, de présenter des excuses. Et tout de suite après, le premier ministre Legault s'est exclamé. Mais quelques jours plus tard là, à l'Assemblée nationale, j'offre aux membres des Premières Nations et aux Inuits du Québec les excuses les plus sincères de l'ensemble de l'État québécois. L'État québécois a manqué à son devoir envers vous. Il vous demande aujourd'hui pardon. C'était trop peu, trop tard, selon vous?
Ouais, comme mes collègues l'ont déjà dit, on n'est plus au temps des excuses, on est au temps de l'action, puis on est surtout au temps d'avoir un rapport complètement différent aux Autochtones. Vous savez qu'au Canada, le statut des Autochtones est encore régi par la loi sur les Indiens de 1878, on parle d'il y a 150 ans, on parle d'une loi dont le nom même est rétrograde, disons-le, et cette loi qui est enchâssée dans la Constitution est très difficile à changer. Il y a là un problème au-delà de donner, d'offrir les services qu'il faut aux citoyens autochtones, aux les services qu'ils méritent et aux services auxquels ils ont droit. Il y a toute la question de leur statut et ça influence assurément le regard et le rapport qu'on entretient avec les populations autochtones. Tant que ça ne s'est pas changé, c'est difficile de vraiment régler la question. Et là, on a besoin de faire visiblement au Québec et au Canada en général un gros cas de conscience sur peut-être refonder un pacte de peuples fondateurs et redonner leur place aux Autochtones. Parce qu'il faut le dire, au Canada, la population autochtone, je crois que c'est environ 10 % de la population. Au Québec, c'est seulement 1 % de la population. Mais on parle de la moitié de la population autochtone qui a moins de 30 ans en ce moment. Donc, quand les Autochtones disent qu'ils se sentent dépossédés de leur propre tradition et de leur propre mémoire, mais je pense que ça, c'est une des preuves flagrantes. La moitié des gens qui sont jeunes et qui n'ont pas eu la chance d'être élevés dans leur propre culture.
Alors, merci. Alors, je vous rappelle que le 30 septembre dernier, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec, la Commission Vien, qui était présidée par l'honorable Jacques Vien, a rendu public son rapport, un document à lire. Alors, maintenant, du Québec, passons à Hong Kong, une ancienne colonie britannique qui est, depuis 1997, une région semi-autonome de la Chine. Alors, Hong Kong connaît depuis le mois de mars de très, très fortes manifestations pro-démocratie. Les protestataires s'insurgent contre l'emprise de la Chine sur les affaires de leur territoire. Pour le gouvernement chinois, la formule qui a présidé au rapatriement de Hong Kong, un pays, deux systèmes, c'est la pierre angulaire du succès de Hong Kong et ça doit être préservé. L'impératif actuel est de mettre fin à la violence, de maîtriser le chaos et de rétablir l'ordre au sein de la société locale, dit le gouvernement central chinois. Pour la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, elle n'a pas écarté hier la possibilité d'accepter l'aide de Pékin pour résoudre la crise politique sur son territoire. La semaine dernière, Mme Lam a ressorti une vieille loi d'urgence afin d'interdire le port de masques lors de manifestations. Résultat, encore plus de manifestations, toujours plus violentes, une véritable flambée de violence. On s'inquiète, Simon Maltais, de l'attitude de la Chine, en tout cas, dans tout ce dossier-là. C'est une situation qui est particulièrement inquiétante. On comprend mal même que la Chine soit si patiente devant ce qui se passe là-bas.
Oui et non. Dans le sens que, oui, on s'inquiète d'une éventuelle réaction de la Chine. On pense, entre autres, au massacre de la place Tiananmen de 1989, que beaucoup craignent qu'il y ait une espèce de résurgence, ou en tout cas une répétition de ça. Mais le contexte actuel mène pas la Chine à faire une action aussi d'éclat, on pourrait dire. Parce que, bon, le temps est du côté de la Chine. Parce que cette fameuse pierre angulaire d'un pays, deux systèmes. C'était officiellement pendant une période de 75 ans, si je me rappelle bien, que ça devait être, en place. Ce qui fait qu'éventuellement, le statut particulier de Hong Kong, c'est en 1997 que Hong Kong a été rétrocédé. Donc, éventuellement, Hong Kong n'aura pas le choix de rentrer dans les rangs chinois. Donc, la Chine a tout le temps du monde, on pourrait dire. Et en plus, on parle de cette année la Chine célébrait le 70e anniversaire de sa révolution. Donc, étant donné que la Chine prend une place de plus en plus grande d'un point de vue international, qui se fait des alliés à travers le monde, et a une emprise économique, en fait, de plus en plus importante. La Chine est rendue finalement l'économie la plus importante au monde actuellement. Elle n'a aucun avantage à y aller de façon trop brusque. Mais je pense que l'exécutif chinois, les dirigeants chinois ont été surpris par la violence et la force des contestations. Parce que bon, il y a eu le mouvement des parapluies à Hong Kong en 2014 qui avait été spontané et qui n'avait pas une ampleur pas un feu de paille, mais qui n'a pas une si grande ampleur que ça. Alors que là, on parle de manifestations monstres. On a un territoire où est-ce qu'il y a un peu moins de 10 millions d'habitants, où est-ce des manifestations avec 2 millions de personnes qui y participent, avec des banquiers, des avocats, des professionnels, des gens qu'on pourrait dire de l'élite qui se sont joints à ces manifestations au départ. Maintenant, le mouvement dégénère un peu, la violence s'installe.
Oui, voilà, c'est ce qu'on a pu observer, en tout cas, durant les derniers jours, là, croissement de la violence. Est-ce que pour la chef de l'exécutif hongkongais, c'est pas une situation qui est perdue d'avance, là, d'une certaine manière? Elle doit diriger un pays à l'intérieur d'un autre pays. Elle a été mise en place par le gouvernement chinois, mais elle doit quand même composer avec l'idée d'un pays, mais deux systèmes. Est-ce que c'est pas un défi particulièrement risqué ou en tout cas perdu d'avance? Allez-y, votre interprétation de cette crise-là, là, Suzanne Loisel.
La complexité de cette situation, je pense que Simon a bien décrit le moment présent en lien avec la Chine continentale, etc. Moi, je pense que la marge de manœuvre de Mme Lan est extrêmement réduite, pour ne pas dire qu'elle est une exécutrice des dictats qui viennent de Beijing. Est-ce qu'elle sera là longtemps? Je pense que ça va être lié à la répression. Je pense que plus il y aura de la répression, plus il y a de chances qu'elle va rester, plus on laisse l'espace au mouvement citoyen de revendication, ben, l'inverse pourrait arriver. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est quelque part l'énergie de ces manifestations. Il faut savoir que c'est depuis 6 mois, si je ne me trompe pas, depuis la fin mars,
ouais.
et sur une base absolument régulière, avec des revendications très précises. Bon, c'est vrai que la question du retrait complet de l'amendement de la loi d'extradition a été l'élément déclencheur. Ouais. Mais depuis, la liste des revendications s'est beaucoup allongée. Bon, évidemment, le départ de Madame Lam, la condamnation de la violence dans les manifestations et effectivement... Le bras de fer commence à être assez costaud, là. Il y a eu, c'était assez étonnant au début, un certain espace accordé aux manifestations, mais là, on voit que les consignes sont extrêmement dures et les dernières manifestations ont été extrêmement sévères. Il y a un bilan humain aussi à ça. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais le nombre de personnes blessées. On a même répertorié le nombre de suicides dans ces manifestations. Aussi, je pense qu'on ne parle pas beaucoup des manifestations de la diaspora, que ce soit à Toronto, que ce soit à Vancouver, mais que ce soit aux États-Unis, où il y a eu des manifestations très importantes dans la région de la Californie, entre autres, de San Francisco. Le coût est extrêmement élevé en termes humains, en termes... on n'en parle pas, ça, du coût humain, mais évidemment, le coût économique, parce que la vie et les infrastructures en subissent le contre-coût. Moi, je suis un peu... je vois bien le géant chinois à côté et mes craintes sont énormes. En même temps, je me dis le potentiel de résistance des Chinois qui défie finalement l'ordre politique, qui défie la présidente, qui maintiennent leurs revendications. Mais jusqu'à quand, là, effectivement, on a fait allusion là, que ça dégénère sérieusement. Et les arrestations sont très nombreuses, les détentions sont très nombreuses. Mais... Effectivement, c'est une manifestation plurielle, et ça, il faut le dire. Oui, les étudiants, oui, les jeunes, oui, les gens les universitaires, etc., mais des représentants du secteur économique. Il y a des banquiers, il y a des chefs d'entreprise, des gens des commerces qui disent « oui, on ferme notre commerce, des fois on n'a pas le choix de le faire », mais il y a un mouvement global, mais moi je dirais un peu, c'est David contre Goliath. Ouais. Goliath, pardon.
Mais on a l'impression qu'en devenant semi-autonome, on savait déjà quoi on s'embarquait.
L'idée était pipée, je pense.
La Chine et le Tibet, qui est aussi une région semi-autonome, c'est pas facile pour le Tibet. Là. En Chine, on pense à d'autres groupes minoritaires en Chine pour qui c'est pas du tout facile de penser d'avoir une propre autonomie sur
leur
territoire.
Les Ouïghours,
voilà. Louis Rousseau, en terminant, là, est-ce qu'on doit craindre le réveil du géant chinois dans ce dossier-là, ou bien si on pense comme Simon qu'il a tout à gagner à attendre?
Je pense que on est dans une situation où l'équilibre, le choix entre les deux options, tolérer, laisser aller, voir si ça se réglera pas en restant à l'intérieur des forces hongkongiennes, c'est clair que le pouvoir central, qui n'est pas particulièrement démocratique sous le président actuel, qui se veut presque président à vie d'ailleurs, Hong Kong est une petite blessure qui fatigue. À la limite, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas déjà fait une intervention. Quel serait le prix à payer? C'est essentiellement un prix par rapport à une opinion mondiale, appelons-la surtout occidentale, mais pas que. Il y a le Japon, etc., et il y a la question de Taïwan. Si l'intervention dans Hong Kong, ce que je prévois quant à moi, et j'ai un fils qui revient d'une année en Chine et qui me dit, écoute, c'est une affaire qui n'a aucune sorte de possibilité, il n'y a pas de solution possible pour simplement rééquilibrer les choses et continuer comme avant. C'est clair que ça va briser. La Chine paierait le prix de dire, nous, une société de droit, on n'y tient absolument pas. C'est ça qui fait que Taïwan résiste, et c'est ça qui fait que... C'est l'idée de société de droit, c'est-à-dire une société où c'est pas l'arbitraire du pouvoir qui a le dernier mot toujours sur tout. C'est ça qui est véritablement l'enjeu. Et est-ce que la Chine pense qu'elle peut se permettre d'inscrire cette chose-là à son passif dans ses rapports internationaux présentement, alors qu'il vise, avec la grande route de la soie, de s'installer tranquillement en Occident, à travers le commerce, etc. Et je crois que en arrière-fond, à mon avis, c'est la seule question, ou en tout cas, c'est une des questions principales qui se pose au pouvoir central chinois. Moi, j'ai l'impression que avec le passage à plus de violence auquel nous assistons, je suis d'accord avec mes collègues là-dessus, en tout cas, c'est ce qu'on voit, ça rouvre la porte tout doucement, un bon matin ou une bonne nuit, les choses se seront passées et voilà, ça sera terminé.
Alors, à surveiller, en tout cas, dans l'actualité des prochains jours, probablement, ce qui va advenir de cette situation-là. Je vous rappelle que depuis le mois de mars, la Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, connaît de très, très fortes manifestations sous l'œil actuellement calme de la Chine, mais on verra bien ce qui va se passer. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de trois analystes. Louis Rousseau de l'UQAM, Suzanne Loisel du collectif Échec à la guerre et Simon Maltais des éditions Novalis Bayard Canada. Alors, d'Hong Kong, on s'en va en Haïti où là aussi il y a des manifestations. En fait, ça fait 4 semaines de manifestations anti-gouvernementales. Le mouvement de protestation a forcé la fermeture des écoles depuis plus d'un mois. mois. En plus de nuire lourdement à l'économie d'Haïti, les rues normalement encombrées de Port-au-Prince étaient pratiquement vides lundi, nous rapporte l'agence Associated Press. L'insatisfaction de la population face au gouvernement du président Jovenel Moïse est alimentée par la colère face à la corruption, à l'inflation galopante et aux difficultés d'obtenir des produits de première nécessité, notamment de la nourriture et de l'essence. Suzanne Loisel, on a l'impression que quand on parle de la difficulté d'obtenir des produits de première nécessité, c'est pas nouveau. C'est même pas la première fois que ça se passe comme ça en Haïti et que ces manifestations-là sont récurrentes d'une certaine manière.
Bien, vous avez tout à fait raison. Vous parlez des manifestations des quatre dernières semaines pour suivre la situation d'Haïti depuis plus de 30 ans. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire récente d'Haïti où la population s'est soulevée. Oui, pour les conditions de vie. Oui, pour la hausse du prix des biens de consommation. Oui, pour des gouvernements qui ne livrent pas la marchandise, entre guillemets. Mais dans les manifestations récentes, j'irais même plus loin que les quatre dernières semaines, j'irais même jusqu'en février dernier, il y a eu un élément déclencheur dont on ne parle à peu près pas, c'est le rapport sur la gestion du programme Petro-Caribé, qui était un programme, en fait, une entente avec le Venezuela, entre autres liée au pétrole, dont les profits étaient pour soutenir des projets dits de développement, des projets qui touchent les conditions concrètes de la population. La publication du rapport qui a été faite a révélé une échelle de corruption assez élevée et ça a été le choc électrique, plus que les conditions de vie, plus que l'extrême pauvreté, plus que la dépendance à l'étranger, d'avoir été floué de façon si importante et sur une longue échelle, et ceci dit, privant la société civile de programmes qu'on avait fait miroiter et auxquels, je pense, ils avaient droit.
Les auteurs de ce rapport-là pointent du doigt directement la présidence d'Haïti.
Le gouvernement est carrément pointé. Quand je parle de l'escalade de la corruption, etc., c'est les gens qui étaient au pouvoir qui ont géré ce programme Petro-Caribé. C'est pas des organismes de la société civile, c'est pas la Banque mondiale, c'est le gouvernement en place. Et là, il y a eu des revendications très claires pour la démission du gouvernement. Et ces revendications persistent. Et c'est toujours ce noyau des revendications qui est touché. Et ce que les gens demandent, oui, la démission du gouvernement en place, carrément corrompu et sur une échelle assez longue, mais ils ne font pas juste réclamer la démission, ils demandent une enquête publique. Et cette enquête publique sur la gestion du pays, évidemment, c'est pas le gouvernement corrompu qui va mettre en place une enquête pour enquêter sur sa corruption. Alors là, il y a quelque part une espèce d'impasse pour dire qui va gérer, dans le fond, cette revendication d'enquête publique. Actuellement, vous avez raison dans votre présentation, le pays est actuellement bloqué. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est le nombre de réactions de la société civile, que ce soit des organisations à la base, des coopératives, des groupes de femmes, des groupes de défense des droits humains. Mais c'est aussi des écrivains importants d'Haïti qui ont lancé un appel au monde à travers une revue française qui s'appelle Le Point. Des auteurs comme Yannick Léens, Lionel Trouillot, etc., etc. C'est quand même des gens, connus de la société civile qui disent « Écoutez, là, il se passe quelque chose de grave et... » Il y a aussi les universitaires, un groupe d'universitaires de l'Université d'État mais, d'Haïti, mais aussi d'universités privées, qui ont lancé un appel avec des revendications très précises sur la gestion de la crise. Les évêques d'Haïti ont aussi dénoncé la situation, fait appel à des mécanismes de conciliation, etc. La conférence des religieux d'Haïti. Donc, je pense que c'est récurrent, ces crises, ces manifestations populaires, mais en même temps, il faut quand même souligner que la société civile est mieux organisée qu'il y a 40 ans. Et on ne traitera pas la société civile comme on l'a traité au départ de Duvalier. Et on doit faire face à des acteurs importants, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des personnes juridiques, des groupes de défense de droits, des groupes de femmes. Et comment, maintenant, le grand défi, c'est d'articuler ces réseaux-là pour faire front commun par rapport au gouvernement. Mais ceci dit, la crise est extrêmement sérieuse. Et pendant ce temps-là, le Canada, qui s'est dépêché au Venezuela, n'a rien à dire. Et on pourra y revenir quand on parlera des élections fédérales, mais la politique étrangère n'est pas une priorité.
Ben, je vous vois sourire, Simon. J'ai l'impression que c'était aussi un sujet que vous vouliez aborder, le fait que le Canada soit complètement muet là, dans cette histoire-là, et même, d'une certaine manière, l'ensemble de la communauté internationale s'est peut-être désintéressé, en tout cas, d'Haïti, davantage, en tout cas, que de Hong Kong.
Mais davantage que de Hong Kong et davantage de beaucoup d'autres situations de crise en Afrique ou dans d'autres pays. Oui, il y a presque un désert médiatique. C'est difficile d'avoir de l'information précise. Et bon, j'aimerais ça revenir sur un élément que Suzanne a dit tout à l'heure. La société civile est vraiment mieux organisée qu'elle l'était par le passé. Mais en même temps, on remarque que le pouvoir qui est en place fait preuve d'un mépris complet à l'égard de cette société civile. Dans cette fameuse affaire de Petro-Caribé, le gouvernement, le président a émis une réponse dans un journal américain, le Miami Herald, au mois de juillet. Le simple fait d'avoir décidé de répondre aux revendications du peuple dans un journal qui n'était pas haïtien, dans un autre contexte, ça démontre un mépris évident de la part du gouvernement en place. Et on voit effectivement que la situation est bloquée. Et pendant ce temps-là, c'est la population qui souffre. Hein. En ce moment, l'ONU estime que l'insécurité alimentaire touche environ le quart de la population. On parle de 2,6 millions de personnes et que la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est les gens qui écopent encore une fois pour la corruption ou l'avidité des dirigeants.
Louis Rousseau, un dernier mot sur la crise en Haïti.
Oui, écoutez, il y a un groupe, il y a des principaux bailleurs de fonds internationaux dont le Canada fait partie. Je me souviens plus, j'ai vu un chiffre considérable, si on met ça sur les 10 dernières années, d'aide du Canada à Haïti. Et au Québec, je dirais, il y a une complicité aussi, en tout cas spécifique, là, je dirais, un peu, avec de solidarité, parce qu'on a beaucoup de Québécois d'origine haïtienne et qu'il y a une vie, une circulation en direct au niveau de la base entre le Québec et Haïti. Peut-être c'est là qu'il nous manque une politique internationale au niveau du Québec, en quelque sorte, pour autant que cette solidarité de la population n'a pas de mécanisme public d'intervention. Les relations internationales, ça s'appelle plus comme ça, mais j'appelle toujours ça comme ça, moi, au Canada.
Affaire mondiale,
oui, ça fait penser à d'autres choses. Il y aurait un rôle, et ce rôle-là, c'est très ambivalent. Il ne s'agit pas que les bailleurs de fonds prennent la place des décideurs locaux, mais peut-être y a-t-il des tractations? Est-ce qu'il y a des communications avec ce que mes collègues ont appelé les éléments dynamiques de la société civile? La solution se trouverait peut-être un peu de ce côté-là. Mais c'est le silence absolu, il n'y a rien. De nos porte-parole internationaux quant à leur lecture de la situation, aux actions qui se font.
Alors, ils sont beaucoup plus enclins, en tout cas, à intervenir au Venezuela, en tout cas, on l'a vu.
Oui, c'est capital pour le Canada, le Venezuela, bien sûr. État pétrolier comme le Canada.
Voilà. Alors, écoutez, on va revenir sans doute sur la question d'Haïti, même si on trouve que peu de médias en parlent, mais heureusement, vous en avez entendu parler à Foi et Turbulence. Alors, vous le savez tous et toutes, le 21 octobre, c'est les élections. Vous irez voter cette journée-là. Sinon, vous pouvez déjà aller voter là, dès cette semaine dans les bureaux de vote par anticipation. Alors, n'hésitez pas à accomplir votre devoir. Et pour vous aider à accomplir votre devoir, ben il y a des débats qui sont au lieu à la télévision où chacun des 6 plus importants candidats à cette élection-là du 21 octobre prennent la parole et défendent de leur point de vue. Lundi, ça a été le débat télévisé en anglais et les 6 chefs de parti étaient là, présents pour la première fois. Ça a été une soirée particulièrement cacophonique. Les attaques verbales ont été nombreuses et ceux et celles qui ont regardé le débat ont vu dès les premières minutes le conservateur Andrew Scheer accuser le libéral Justin Trudeau d'être un hypocrite, un imposteur, un phony, qu'il a dit en anglais. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. Il y aura un nouveau débat demain soir en français cette fois. Ce qui a été assez étonnant, je pense, lors de ce débat-là lundi, c'est toute l'importance qu'a pris le débat sur la laïcité. La loi 21, cette fameuse loi sur la laïcité de l'État qui a été votée au Québec et qui concerne le Québec, et on n'a pas arrêté d'en parler pendant ce débat-là. En tout cas, tout le monde a été obligé de se positionner. Le premier ministre fédéral a dit « Oui, mon gouvernement pourrait avoir à intervenir devant les tribunaux pour protéger les droits des minorités. Et vous avez eu le premier ministre Legault qui a aussitôt réagi très fortement. Je trouve ça assez spécial qu'un chef vienne dire qu'il est prêt à contester la volonté populaire des Québécois, a déploré M. Legault, en rappelant que 70% des Québécois approuvent cette loi 21. Il ne s'agit pas de prouver si son chiffre est exact, mais ce qu'on voudrait surtout savoir, c'est est-ce que c'est pas un peu dérangeant d'entendre tous ces débats-là sur une loi qui est québécoise, qui ne concerne pas, d'une certaine manière, les élections canadiennes. Mmh. Allez-y, Louis Rousseau, là-dessus.
D'une part, enfin, moi, j'ai été un peu étonné, pas totalement surpris, mais je suis de plus en plus étonné de la place en termes de temps dans ces débats-là que l'on accorde à cette question-là. Et vous me permettrez de dire que je ne pense pas d'ailleurs qu'on parle de la laïcité. Il y a une méprise complète. D'un côté, la laïcité, c'est la laïcité de l'État, des institutions de l'État, des gens qui ont des fonctions qui peuvent être liées aux fonctions de l'État. Ça, c'est le débat au Québec. Mais ailleurs dans le Canada, il s'agit de savoir est-ce qu'on a le droit d'imposer des limitations au choix des individus de s'habiller. C'est pas vraiment... C'est deux lieux dans la géographie des opinions. Le monde ne sont même pas en train de se parler du tout. Donc, la problématique au Québec, c'est une problématique de l'État non confessionnel et laïque, et alors qu'ailleurs, c'est la problématique des droits de l'individu. C'est deux choses qui, bien entendu, ont des rapports l'un avec l'autre, mais il me semble fascinant de voir que ce débat-là, d'ailleurs, est un débat essentiellement intéressant pour les médias. Ce sont les médias eux-mêmes qui posent cette question-là, parce qu'ils sentent bien que c'est une question extrêmement embarrassante, qui divise le Canada, et alors on a d'un côté le Québec et ses horaires, on a toutes les horaires possibles, on les a chez nous, ça fait un pays riche, mais enfin, du point de vue là, d'une certaine scène médiatique, et alors on est prêt avec ça, on endure ça, et même, je dirais, personnellement, la réponse que celui qui défend le plus la position législative du Québec, soit dit en passant, personnellement, je dois confesser que je suis contre, mais pour d'autres raisons, la loi 21 telle qu'elle est donnée, le chef du Bloc ne défend même pas la question de la laïcité, ne ramène pas la discussion là où elle a lieu au Québec. Donc, on est en présence des gens qui disent « Oui, le Québec, on le sait bien, c'est le mépris des droits individuels, raciste un peu sur les bords, personne ne l'a encore dit trop, en tout cas publiquement, mais ça peut se dire autrement, et le bon Canada vierge défenseur des droits de l'individu de l'autre. » Ceci n'est pas un débat qui est sain, mais ça a l'avantage de prendre du temps et de mettre des gens dans l'embarras. Hein. On voit bien le chef des conservateurs et le chef du NPD sont extrêmement mal à l'aise, et même M. Trudeau, lui aussi, est mal à l'aise. Personne ne veut perdre de vote au Québec, et pendant ce temps-là, on est pris avec une question qui, évidemment, n'aura aucune issue en lien avec cette élection.
Alors, on parle peut-être trop de laïcité, mais pour vous, Suzanne Loisel, il y a un sujet dont on ne parle jamais jusqu'à maintenant dans ces élections-là, c'est la politique internationale.
Entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres... Effectivement, le débat sur la laïcité est en train de laver les autres enjeux et comment on peut tomber à pieds joints là-dedans en faisant le silence sur beaucoup de dossiers. Les dossiers, que ce soit le climat, que ce soit la responsabilité sociale des entreprises, etc. Mais effectivement, moi, c'est mon dada de suivre les positions par rapport au développement international, par rapport à la politique étrangère. C'est le silence. Hein. En fin de semaine, quelques articles dans Le Devoir, effectivement, qui ont commencé dans les colonnes idées, où Manon Cornelier qui dit ben la politique étrangère, c'est la grande oubliée. Mais ça fait un mois qu'il y a des organisations de la société civile, que ce soit la COSI, que ce soit d'autres réseaux, la Concertation pour Haïti, qui ont dit... non, il y a des enjeux importants. Je pense, par exemple, à l'engagement du Canada par rapport à l'aide internationale. Le fameux 0,7%, ça fait 40 ans qu'on s'est... écoutez, peut-être 38 ans, là, mais que le Canada s'est engagé à consacrer 0,7% de son revenu national brut. En 2017, les dernières statistiques, c'était 0,26%. Personne n'interpelle le Canada là-dessus, les journalistes, les médias, les organisations. Et pendant cette campagne électorale, Scheer annonce une réduction de 25 % du budget de l'aide internationale. Aucun débat. Il me semble que ça aurait dû être un élément, au lieu de parler de la loi de la laïcité au Québec, de parler d'un enjeu fédéral. Rien, personne n'a soulevé ça, aucun parti. En même temps, l'augmentation du budget de la défense augmente de 70 % en 10 ans. Personne ne questionne l'engagement militaire du Canada. Par exemple, la vente des blindés en Arabie Saoudite. Quand on sait que l'Arabie Saoudite, on connaît la situation, on connaît.
Oh, yeah,
c'est beaucoup dire. La situation de violation des droits à l'intérieur du pays, mais l'intervention au Yémen, qui est une des grandes catastrophes humanitaires contemporaines. Personne ne parle de ça. Moi, je pense qu'il y a toute la question du mode de scrutin. Trudeau avait fait une promesse en 2015, on va réformer le mode de scrutin. Ça avait été dit au Québec, ça fait combien d'années qu'on parle de réformer le mode de scrutin? Personne ne parle de ça, évidemment. Ceux qui sont au pouvoir ont été élus avec le système actuel. Ils n'ont aucun intérêt à vouloir le changer. Mais quelle injustice, dans le fond, ce système-là. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des paroles citoyennes par rapport aux élections. Je trouve que la société civile, on n'en parle pas, mais il y a des gens qui ont préparé des dossiers sur la politique étrangère, sur la politique canadienne at large, sur des enjeux très précis, avec des questions précises à poser aux candidats, que ce soit la COSI, que ce soit le réseau des Jésuites, que ce soit les évêques qui ont déjà publié un document, la CRC va se positionner aussi par rapport aux élections. Mais ça, dans les médias officiels, pour ne pas dire Radio-Canada, qui est un outil fédéral, cette parole citoyenne n'émerge d'aucune façon. La place de poser des questions aux candidats sur des enjeux qui touchent, oui, l'aide internationale, mais la politique internationale, que ce soit le commerce des armes, que ce soit notre position par rapport à Haïti qu'on vient de parler, par rapport au Venezuela, l'Ukraine, cet arrimage à l'Ukraine du Canada, rien pendant les débats. Est-ce que ce sera au prochain débat?
Oui, alors, je vous rassure tout de suite, les organisateurs du prochain débat qui aura lieu demain soir, là, disent que la question internationale sera à l'ordre du jour. En tout cas, il sera certainement évalué. On verra combien de temps on donnera à ce sujet-là. Mais vous, Simon, depuis le début de la campagne, ce que vous observez, c'est l'influence ambiguë des réseaux sociaux. Allez-y un peu là-dessus.
Oui, ben en fait, je pense qu'il faut, c'est un élément dont il faut s'attarder de plus en plus, étant donné que les réseaux sociaux sont maintenant en fait l'une des principales sources d'information pour beaucoup de personnes, et étant donné les rôles qui ont déjà que les réseaux sociaux ont suivi dans d'autres élections partout dans le monde. D'abord, je voudrais mentionner il y a trois éléments dont il faut tenir compte dans notre compréhension du rôle des réseaux sociaux dans la campagne. D'abord, l'importance justement du réseau pour s'informer, les bulles de réconfort que j'appelle, j'expliquerai ça un peu plus loin, puis l'origine de l'information. Bon, ce que je veux dire par rapport à l'importance des réseaux sociaux, c'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui s'informent à partir des réseaux sociaux au détriment des médias traditionnels, et même dans la tranche des 18-40 ans, c'est plus la majorité des gens qui vont chercher leur information sur les réseaux sociaux. Donc, la qualité de cette information-là est primordiale. Maintenant, ce que j'appelle les bulles de réconfort, c'est que les réseaux sociaux analysent l'activité des gens sur leur plateforme, et ils vont leur proposer généralement un certain contenu qui va les interpeller, ce qui fait en sorte que ça crée des bulles de réconfort où est-ce que les opinions qui nous intéressent vont être plus mises de l'avant et les opinions qui sont divergentes vont être mises de côté, ce qui a pour effet de polariser finalement et de créer et d'aider les gens finalement à monter des situations en épingle. Et finalement, ben pour ce qui est de l'origine de l'information, ben on se rappellera la dernière campagne présidentielle américaine où les allégations de tentatives d'influence de la Russe, entre autres, ont été abondamment traitées, surtout en rétrospective, parce que c'est très difficile à analyser en cours de route, mais on peut se poser légitimement la question, est-ce que les élections canadiennes en ce moment sont... est-ce qu'il y a des intérêts étrangers qui essaient d'influencer les élections canadiennes actuellement? À cet égard-là, pour l'instant, les journalistes dédiés à la question à Radio-Canada n'ont rien détecté, puis bon, ils ont une équipe qui est assez ferrée sur le sujet, donc on peut pas porter de conclusion définitive, mais ça semble être pas si pire. Sinon, les effets des réseaux sociaux jusqu'à présent, ben sans surprise, il y a les quelques scandales classiques de la campagne qui ont été montés en épingle.
Alors, on découvre qu'un candidat, une candidate a déjà prononcé telle parole sur Facebook ou sur Twitter. Et voilà.
Exactement, où on reprend en boucle
la nationalité américaine.
Oui, ouais. La nationalité américaine de Scheer, j'allais en parler, le blackface de Justin Trudeau, ou la position ambiguë de... Oui, c'est tellement important. La position ambiguë du Parti vert par rapport à l'avortement. Donc, tous ces éléments-là sont montés en épingle. Mais ça, c'est pas une surprise. Mais là où est-ce qu'il y a... Là où il y a une surprise actuellement, c'est par rapport à YouTube, qui est un réseau social qui a souvent été critiqué par rapport à ses algorithmes de contenu proposés. YouTube a la fâcheuse habitude de vous montrer des vidéos conspirationnistes. En fait, mais ça, c'est par le passé, parce que il y a des tests qui ont été faits en ce moment. Les vidéos conspirationnistes ont été tassées, mais en même temps aussi les vidéos de politique canadienne. Et il semblerait que les algorithmes de YouTube aient été changés de telle sorte que les thèmes polarisants ont été délibérément écartés. Oui. Mais ce qui fait en sorte que, justement, les gens qui s'informent sur YouTube ont beaucoup de difficultés de trouver de l'information sur le sujet. Alors, c'est parce que, bon, YouTube, c'est une plateforme qui est propriété de Google, et Google a toujours une façon de gérer les données qui est condamnée un peu partout dans le monde, et ce qui fait que la situation sur YouTube actuellement est très, très particulière.
Le Canada est passé à l'eau de Javel.
Oui.
Alors, donc, autrement dit, regardez à la vraie télévision demain soir le débat, même s'il sera sans doute sur YouTube. Ses meilleurs moments seront placés sur YouTube tout de suite après. Alors, écoutez, il reste peu de temps à l'émission, mais je vais quand même faire un tour de table. C'est la dernière émission Foi et Turbulence, la dernière table ronde avant les élections. Mmh. À la prochaine table ronde, on va analyser les résultats. Mais j'aimerais bien vous entendre parler déjà de vos prévisions, non pas de ce que vous souhaitez qui arrive, mais bien de ce qui risque de se passer. Très rapidement, allez-y, Simon Maltais.
Mais en fait, en ce moment, ce qui reste fascinant, c'est qu'en début de campagne, on disait que les libéraux étaient au coude à coude, et on est rendu en mi-campagne. Les libéraux et les conservateurs sont encore au coude à coude. On dirait qu'on n'a pas encore atteint un moment où est-ce que la campagne bascule. Si ce moment-là n'arrive pas, c'est difficile à prédire, mais probablement qu'on va avoir un gouvernement minoritaire. Peut-être plus rouge que bleu, à mon avis, mais on verra bien.
Alors, Suzanne Loisel, pas de point tournant encore, ce qui fait qu'on risque bien d'avoir un gouvernement minoritaire?
Écoutez, je trouve ça toujours difficile de faire des prévisions parce que dans le domaine de la politique, il y a de l'imprévisible. Je ne suis pas la personne qui se fie beaucoup aux sondages, mais je suis très consciente de ce que Simon vient de dire, qu'on est toujours au coude à coude. Moi, je suis un peu la montée du Bloc québécois au Québec peut être une donnée, je ne sais pas, qui peut brouiller les cartes par rapport à l'appui au Parti libéral. Mais je pense qu'on s'oriente vers un gouvernement minoritaire.
Alors, brièvement, Louis Rousseau?
J'ai la même opinion que Suzanne. À mon avis, c'est du point de vue de la démocratie souhaitable que le Canada vive une situation de direction par un gouvernement minoritaire. Ça amènerait, par exemple, la question environnementale dont on n'a pas parlé au cœur des décisions gouvernementales, ce qui, à mon avis, est tout à fait souhaitable.
Alors, il nous reste 2 minutes à l'émission. Je vous assure que dans 2 semaines, on va reparler des élections. Je voulais juste vous laisser avec ces chiffres-là. Il y a 338 circonscriptions au Canada, 121 en Ontario, 78 au Québec, 42 en Colombie-Britannique et 34 en Alberta. Ça veut donc dire que 275 circonscriptions ont comme territoire 4 provinces du Canada seulement. On a prévu 27 millions d'électeurs et d'électrices pour ces élections-là. Et on a aussi prévu, on a déjà fait préparer 257 000 crayons pour marquer les bulletins de vote. Si vous les mettez bout à bout, ça vous donne 45 000 kilomètres. Alors, écoutez, très, très brièvement, Suzanne Loisel, vous avez une annonce, en tout cas, à nous faire pour la paix, bien sûr.
9e campagne du Coquelicot blanc, campagne menée par le collectif Échec à la guerre. Vous pouvez vous procurer votre coquelicot blanc pour manifester votre option pour la paix et votre option antimilitariste. Plus de détails sur le site du collectif échecalaguerre.org.
Ben alors, un grand merci. Alors, n'oubliez pas de regarder le débat demain soir. Il sera aussi sur les différentes plateformes électroniques, mais à la télévision, bien sûr. L'émission Foi et Turbulence est coproduite et produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 23 octobre. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine, à Foi et Turbulence, en Formule Magazine, Mathieu Lavigne discutera avec Julie Tanguay, directrice générale du Foyer du Monde, et avec le frère Yvon Pomerleau, membre de l'équipe fondatrice de cette ressource qui accueille des personnes réfugiées, quelle que soit leur origine et leur confession religieuse. Merci à nos invités, Suzanne Loisel, Simon Maltais et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenet de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.